Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes d'amitié et de fraternité de Radio Téhéran. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous présenterons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Iran, un arsenal de 10 missiles dévoilés. Les ministres iraniens et maliens des affaires étrangères se sont entretenus des relations bilatérales et des questions d'intérêt mutuel. Et l'armée israélienne a abattu un de ses propres drones à la frontière avec le Liban. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien de la Défense, le général Mohammad Reza Ashtiani, a dévoilé dimanche 13 février 10 systèmes de défense antimissiles et munitions de pointe lors d'une cérémonie tenue à l'occasion du 43e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. L'Iran est la puissance dominante en Asie de l'Ouest qui joue un rôle influent dans l'arène internationale. Les nouvelles menaces exigent des contre-mesures appropriées pour assurer la préservation de la stabilité du pays, a fait savoir le ministre iranien de la Défense. Il a décrit la fabrication des équipements militaires basés sur l'intelligence artificielle et l'augmentation de portée des systèmes de missiles comme la démarche principale de l'industrie de défense du pays et a déclaré que les 10 systèmes de défense dévoilés sont équipés de missiles de type tir et oubli qui leur permet d'affronter l'ennemi à de plus grandes distances. Les systèmes de missiles dévoilés comprennent divers types de missiles adaptés aux besoins de la défense, dont les missiles solaires, les missiles ayant la capacité d'être embarqués à bord de divers hélicoptères et de drones, ainsi que des munitions de précision à longue portée basées sur l'intelligence artificielle fabriquée pour l'artillerie et des mortiers. Lors de la cérémonie, la ligne de production d'un nouveau véhicule blindé tactique de pointe, Aras 3, à cabine simple et à double cabine a été lancé. C'est dans ce contexte que le général de brigade Qumars Heydari, commandant des forces terrestres iraniennes, a fait état de l'investissement particulier de l'Iran sur les armes de précision à longue portée qui ont basé sur l'intelligence artificielle. Grâce aux ressources dont nous disposons, les équipements militaires de l'armée terrestre seront bientôt remplacés pour être appropriés à la force de réaction rapide. Alors qu'il est, de nouveaux missiles anti-chars ont été remplacés par ceux de précédents. Nous avons des réalisations dans le domaine de la fabrication et la modernisation de nouveaux drones, a-t-il déclaré. À l'heure actuelle, l'Iran dispose d'une large gamme de missiles balistiques modernes de différentes portées, dont Fateh 110, Zelzal et Fat. À noter que les missiles Fat, installés sur des lanceurs à cartouches, figuraient parmi les armes qui ont intégré la force terrestre du CGRI. Les lanceurs qui ont été remis sont chacun équipés de 6 cartouches. Les lanceurs de ce type avaient été également livrés en masse à la force navale du CGRI en 2021. Parmi les missiles anti-chars dont dispose la marine du CGRI figure le missile tactique d'Ehlaviyé qui peut être embarqué sur le véhicule blindé Saphir. La nouvelle génération du missile anti-char d'Ehlaviyé, baptisé Almas, figure parmi les armes de fabrication iranienne qui a été remise à la force anti-aérienne de l'armée iranienne. Les ministres iraniens et maliens des Affaires étrangères se sont entretenus dimanche 13 février à Téhéran des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Ils ont évoqué la nécessité de développer la coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé, des nouvelles technologies, de l'élevage et de l'énergie, en particulier l'énergie solaire, et ont convenu d'élaborer une feuille de route de coopération dès que possible. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue malien, Abdoulaye Diop, ont échangé leur point de vue sur une multitude de questions, notamment les relations bilatérales, régionales et internationales. Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné l'importance des visites mutuelles de hauts responsables des deux pays dans l'expansion et le développement des relations bilatérales et a souligné le statut de l'Afrique dans la politique étrangère du 13e gouvernement iranien sous le président Ebrahim Raisi. Il a souligné la volonté sérieuse du gouvernement iranien d'élargir de manière globale les relations et les interactions avec le Mali dans tous les domaines d'intérêt commun, faisant référence aux réalisations acquises par la République islamique d'Iran dans divers domaines industriels et scientifiques, notamment la santé et la médecine. Il a souligné la volonté de Téhéran de transférer la technologie et de partager ses réalisations avec le Mali. Le ministre malien des Affaires étrangères a pour sa part remercié son homologue iranien pour son hospitalité et a exprimé la volonté de son pays d'élargir les relations bilatérales, en particulier dans les domaines commerciaux et économiques. Abdoulaye Diop a indiqué que son pays attache une grande importance à ses relations avec l'Iran et a invité les entreprises iraniennes à avoir une forte présence au Mali pour des projets de développement. L'armée israélienne a abattu un de ses propres drones à la frontière avec le Liban. L'armée du régime sioniste a commis une erreur en tirant sur un de ses propres drones au-dessus de ses frontières avec le Liban, rapporte Al-Mayadin. Le site d'information Bala rapporte pour sa part que les forces militaires israéliennes ont tiré sur un drone qu'ils croyaient venir depuis le Liban, mais que le drone n'a pas été endommagé. L'incident fait actuellement l'objet d'une enquête. Dans un bref communiqué, l'armée du régime sioniste a déclaré que les soldats avaient tiré sur le drone en raison d'une erreur d'identification. Les soldats pensaient que le drone était passé du Liban dans l'espace aérien israélien. Le communiqué n'a donné pourtant aucune information sur le type du drone, qui était probablement l'un de ceux que l'armée israélienne utilise habituellement pour effectuer une surveillance le long de la ligne de séparation avec le Liban. Au cours des dernières années, plusieurs de ces drones ont été abattus par l'armée libanaise et le Hezbollah. L'incident du tir Ami reflète la situation délicate le long de la ligne de séparation entre Israël et le Liban. Le régime sioniste et son armée sont de plus en plus frustrés par les opérations de drones du Hezbollah. Les habitants de Tal Dahab, dans la banlieue nord de Hasaka, avec l'appui d'un point de contrôle de l'armée arabe syrienne, ont intercepté un convoi militaire de l'occupation américaine et l'ont expulsé de la périphérie du village. Des sources locales du village de Tal Dahab ont fait savoir aux correspondants de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, qu'un convoi composé de 6 blindés appartenant aux forces d'occupation américaines, accompagné d'une voiture, des FTS avaient tenté de traverser le village, mais les habitants, avec l'appui du point de contrôle de l'armée, avaient expulsé le convoi de la zone. Les sources ont indiqué que les habitants avaient jeté les pierres sur le convoi de l'occupation américaine qui a aussitôt quitté la zone. Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté ce dimanche 6 Palestiniens dans des zones différentes de Cisjordanie. L'agence de presse MAN a rapporté que les forces d'occupation avaient pris d'assaut plusieurs quartiers des deux villes d'Al-Rots occupées et de Naplouse et arrêté 6 Palestiniens. Le chef du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a appelé dimanche à des efforts internationaux et régionaux combinés pour résoudre la crise politique qui sévit dans le pays. M. al-Burhan a tenu ses propos au cours d'une rencontre avec une délégation de l'Union africaine, dirigée par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Pankol Adeoye, et le représentant spécial de l'Union africaine au Soudan, Mohamed Belaïche, a déclaré le Conseil souverain dans un communiqué. M. Al-Burhan a indiqué que le plan du gouvernement pour résoudre la crise comprenait le lancement d'un dialogue global impliquant toutes les forces politiques et sociales du pays, à l'exception du parti du Congrès national, désormais interdit, et la formation d'un gouvernement de compétence nationale indépendant pour diriger le pays jusqu'à la fin de la période de transition. Il a également appelé à amender la Constitution de manière conforme à l'évolution politique du pays et à organiser des élections libres et équitables au terme de la transition, selon le communiqué. La délégation de l'Union africaine a pour sa part déclaré que sa visite au Soudan visait à ce stade à renforcer tous les acteurs impliqués et à écouter leurs avis pour proposer une vision globale susceptible de résoudre la crise au Soudan. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. La mission israélienne au Sahara occidental. À peine une semaine après la méga déculottée israélienne à s'infiltrer au sein de l'Union africaine, et ce malgré le soutien ferme de Rabat, ce dernier annonce une enveloppe de 600 millions de dollars tirée au contribuable Maroc pour se doter du système Barakah. Cet achat intervient alors que les rapports font état de la détérioration de la situation au Sahara, où le Front Polisario vient de publier une liste de 10 militaires et officiers marocains tués ces derniers jours. Tout porte à croire que la présence israélienne au Sahara a déjà fait entrer les combats dans une phase sanglante et qu'Israël est décidé à aller encore de l'avant. Le Channel 12 de la télévision israélienne a fait état dimanche 13 février de la conclusion d'un contrat de vente d'armement d'une valeur de 600 millions de dollars entre le régime sioniste et le Maroc. Les discussions sur l'accord ont commencé lors de la visite du ministre israélien des Affaires militaires, Benny Gantz, au Maroc il y a 3 mois. Selon le rapport, l'industrie aérienne du régime sioniste équipera le Maroc du système de défense aérienne Barakah. Gantz s'est rendu 24 novembre 2021 à Rabat, une première visite d'un ministre israélien de la guerre au Maroc afin de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux parties, un an après la normalisation des relations et en pleine tension entre Alger et Rabat. Des sources sionistes ont fait état de la conclusion du deuxième accord militaire avec le Maroc, signé par le ministre de la guerre du régime sioniste et des responsables marocains. Selon Rayal Yaoum, l'accord déjà conclu entre les deux parties fournit le cadre des coopérations bilatérales israélo-marocaines en matière de défense et constituera la base pour les futures coopérations. Lors du précédent voyage de Gantz au Maroc, le porte-parole du ministère israélien des Affaires militaires a annoncé qu'Israël et le Maroc avaient signé un protocole d'accord militaire qui ouvrirait la voie à la vente d'équipements militaires et à l'expansion de la coopération militaire bilatérale dans le domaine du renseignement, de l'industrie de défense et de la formation militaire. Le ministre israélien avait déclaré que les relations bilatérales avec le Maroc devraient s'étendre et se consolider. Auparavant, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, s'était rendu en Maroc. Israël et le Maroc avaient établi des relations diplomatiques au début des années 1990, avant que le Maroc n'y mette fin au début de la seconde intifada, appelée aussi l'intifada de la mosquée Al-Aqsa du début des années 2000. L'année dernière, après la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Bahreïn avec le régime sioniste, le Maroc a également repris ses relations avec Israël. Le Maroc s'apprête-t-il réellement à financer à hauteur de 600 millions de dollars les tueries que commet l'armée israélienne en Cisjordanie, à Rots et en Palestine historique, entre autres? vu que le royaume s'est déjà doté de la DSA chinoise HQ9, le baraque israélien israélien pour barricader le ciel marocain contre de supposées frappes algériennes, ou vise-t-il surtout à scanner à des fins déstabilisatrices le ciel du Maghreb? Tout porte à croire que la présence israélienne au Sahara a déjà fait entrer les combats dans une phase sanglante et qu'Israël est décidé à aller encore de l'avant.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Ce vendredi 11 février marque le 43e anniversaire de la victoire de la révolution glorieuse islamique en 1979. Et à cette occasion, à l'instar des années précédentes, des millions d'Iraniens ont défilé à travers le pays à bord de leur véhicule pour célébrer l'événement en plein respect des protocoles sanitaires. Des défilés similaires ont eu lieu non seulement à Téhéran, mais aussi dans d'autres grandes villes iraniennes, notamment à Mashhad, Shiraz, Isfahan et Tabriz. La marche de cette année intervient alors que la République islamique d'Iran a continué sa marche en avant au cours des quatre dernières décennies, en dépit des sanctions occidentales, comme l'a tout récemment affirmé le leader de la révolution islamique. Ainsi, l'Iran a réussi à enregistrer des progrès spectaculaires dans différents domaines et s'est imposé comme une puissance régionale incontournable. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce plus grand événement du XXe siècle, à savoir la victoire de la révolution islamique en Iran, son impact sur les évolutions dans la région et sur la scène internationale et surtout sa place aujourd'hui, plus de quatre décennies après son avènement. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Alsace, Maître André Chamy, juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et mes salutations au professeur Dortiguier.
Maître Chamy, ce vendredi 11 février marque le 3e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. 43 ans se sont écoulés depuis l'avènement de la révolution islamique en Iran. Alors pour commencer ce débat, permettez-moi de vous poser cette question. Plus de quatre décennies après la victoire de la révolution islamique, où en est-on de cette révolution, de ses idéaux et de sa place géostratégique dans la région, voire dans le monde?
L'Iran, à travers cette révolution islamique, a marqué l'histoire de la région et presque, j'ai envie de dire, l'histoire du monde. C'est-à-dire, il y a avant la révolution, après la révolution. Avant la révolution, il y avait les pays qui consentaient à accepter, en quelque sorte, les diktats des pays étrangers. Et ceux qui étaient tentés par l'idée d'y résister, ils étaient sanctionnés, en quelque sorte, par des coups d'État ou par des guerres, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Nous avons vu ça à l'époque, dans les années 70, entre 60 et 70, à travers le monde. Et évidemment, tout le monde se rappelle, notamment par exemple de l'exemple chilien et la chute du président Allende. Mais il n'y avait pas que lui, l'Afrique est truffée d'exemples du même genre. Et il y a eu la révolution iranienne. Et cette révolution est venue non seulement pour changer la donne politique dans un pays aussi grand que l'Iran, mais cette révolution est venue pour changer d'abord des valeurs, des principes fondamentaux qui régissent un pays, c'est-à-dire ce qu'on appelle les règles constitutionnelles, mais également les rapports à l'intérieur de la société entre citoyens et gouvernants. Et derrière ça, il y a eu tout un projet de souveraineté nationale qui s'est déployé et qui s'est développé jusqu'à ce qu'on arrive à l'Iran d'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire l'Iran aujourd'hui, grâce à cette révolution, a doté ses propres citoyens des moyens de développer leurs compétences et leurs capacités. Les évolutions scientifiques, le niveau de connaissances, le niveau d'alphabétisation et surtout les niveaux des capacités en recherche et en développement n'ont rien à voir avec les années 70, en tout cas la fin des années 70. Aujourd'hui, ce pays compte parmi les meilleurs au monde et notamment, par exemple, je ne citerai que cet exemple-là, en matière de nanotechnologie. Aujourd'hui, l'Iran compte parmi les 5 premiers pays en développement et en connaissance en nanotechnologie. Vous prenez l'exemple militaire, ce qu'on appelle la science militaire ou l'art militaire, mais dans le sens production et des armements, aujourd'hui l'Iran compte également parmi les meilleurs pays au monde, au point d'être craint par l'essentiel des forces de la région, y compris l'entité sioniste qui aujourd'hui se pose la question sur son existence et appelle à l'aide son maître, en l'occurrence les États-Unis, pour limiter les capacités militaires de l'Iran. Et l'exemple, ou plutôt le prétexte du projet nucléaire iranien n'est devenu qu'un prétexte, parce que ce qui se discute actuellement, ce que les Américains tentent d'obtenir en même temps et surtout maintenant, c'est le freinage du programme notamment balistique iranien, et ce qui démontre la crainte de ses capacités et la crainte de son développement dans un avenir très proche, parce que ces mêmes moyens ont permis à l'ensemble de l'axe de la résistance, voire au-delà, de compter sur l'Iran pour se doter des moyens nécessaires tant pour leur défense, mais également pour aller plus loin. Nous voyons l'exemple yéménite qui démontre effectivement que ses capacités en matière de connaissances militaires ont permis à ce pays de se défendre face à une coalition extraordinaire et bien entendu maintenant de rendre coup pour coup au pays attaquant. Mais au-delà de cela, à mon avis, il y a la capacité de développer ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Aujourd'hui, l'Iran est devenu un exemple pour un certain nombre de pays dans la région, mais au-delà de la région. Vous prenez l'exemple du Venezuela et même les pays émergents de l'Amérique latine. Évidemment, ils prennent aujourd'hui l'Iran comme exemple en disant la soumission aux États-Unis n'est pas une fatalité. Chaque pays peut se libérer de cette possibilité-là. Et bien entendu, l'avenir devient beaucoup plus visible et beaucoup plus radieux pour ces peuples-là, pour s'émanciper et surtout pour développer leurs capacités internes afin de pouvoir de ces populations avec les moyens de ces pays-là et surtout en mutualisant les moyens qui existent entre les différents pays qui existent. Et l'exemple vénézuélien a été le meilleur au niveau de fourniture de pétrole pour permettre au Venezuela de faire face aux pressions américaines et surtout le système vénézuélien, plier la population vénézuélienne face à la puissance américaine. Vous prenez donc que le monde entier, des pays d'Afrique, des pays d'Asie qui commencent à prendre exemple sur l'Iran et bien entendu disent qu'il y a une possibilité de faire un avenir autre que celui qui est préparé par les Occidentaux et par les Américains, qui était fondé sur quoi ? Sur ce que j'appellerais, moi, la soumission et le diktat, au lieu de fonder l'avenir sur la liberté et la capacité de chacun d'avoir son avenir tout seul. Ça s'appelle l'autodétermination. Je rajouterai un seul point. C'est l'aspect spirituel et intellectuel, ouais, c'est-à-dire une spiritualité qui est déployée à travers la nouvelle République islamique et qui continue aujourd'hui de rayonner à l'intérieur et à l'extérieur, parce que les rapports avec l'Iran ne sont pas des rapports d'animosité, parce que l'Iran a toujours tendu la main à l'ensemble des pays de la région, et c'est ce qui explique évidemment cette espèce d'attirance à destination de l'Iran, parce que l'Iran n'essaye pas d'influencer l'extérieur par la force, essaye au contraire d'abord de tendre la main et de faire en sorte qu'il y ait une cohésion dans cette région-là et qu'il y ait une cohésion entre les pays qui veulent résister contre les dictats des autres pays, qu'ils soient occidentaux ou autres, mais plus particulièrement les occidentaux et les américains. Et cet aspect spirituel, et bien entendu, donne un aspect qui n'était pas utilisé jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, les relations étaient des relations politisées. Là, il y a cet aspect spirituel qui permet de dire il y a quelque chose qui est plus profond et qui est beaucoup plus intense et qui permet, bien entendu, d'échanger, mais dans le respect d'autrui et dans le respect des valeurs d'autrui.
Merci infiniment, Maître Chami, pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse, Monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Colabandé. Bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Chami, dont j'ai entendu vraiment avec grand plaisir l'exposé.
Monsieur le professeur, Maître Chami a évoqué, en effet, les acquis spectaculaire enregistré par la République islamique d'Iran au cours des quatre dernières décennies dans différents domaines scientifiques, y compris scientifiques et militaires, mais aussi le fait que l'Iran, en effet, a réussi à changer la donne politique et diplomatique dans la région, voire dans le monde. Quel premier regard portez-vous justement sur ces acquis enregistrés par la République islamique d'Iran dans différents domaines, que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan régional et international ?
Eh bien, en effet, il s'agit là d'un changement qui est harmonique, c'est-à-dire que tout ce qui est sur le plan intérieur se manifeste naturellement dans la modification des relations ordinaires entre États. Sur le plan intérieur, je dois dire que, pour résumer ce qu'a dit Maître Chami, de donner résumé en un mot, disons, c'est la technique, c'est-à-dire la capacité technique qui a montré justement une vie intérieure, une sorte de sève, si je puis dire, dans le corps iranien, qui a permis justement ces résultats. La technique est une pierre de touche, vous savez, pour juger justement de la santé des États. Et c'est grâce à cela que l'Iran a pu sortir, bien sûr, de complot, mais disons de blocus qui était dirigé contre elle, contre lui, contre l'Iran. Et ceci d'ailleurs se marque sur le plan intérieur, ça c'est le sens de la révolution, je crois, de 79, par l'institution justement de deux pouvoirs, que ce soit le pouvoir du président de la République qui est lié aux élections, et le pouvoir au contraire lié à une sorte d'élection, mais d'élection spirituelle, qui est le guide suprême. Je crois que cette originalité, au sens fort du terme, de la révolution iranienne, permet d'expliquer sa stabilité, c'est-à-dire cette stabilité lui donne moins de prise à ses adversaires, je dirais, intérieurs et extérieurs. Intérieur, j'entends, par ceux qui favorisent toujours l'anarchisme, c'est-à-dire cherchent d'abord à mettre leur position personnelle ou leur groupe personnel au-dessus des intérêts de l'intérêt national, et à l'extérieur aussi, car jusqu'à présent, je cite encore, je m'excuse, Maître Chami, tous les États ne subsistaient que par clientélisme, c'est-à-dire que on se donnait aux Américains, d'une part, pour éviter l'emprise communiste, quand les Américains intervenaient pour lutter soi-disant contre le régime communiste, que ce soit en Corée ou au Vietnam, cela aboutissait non seulement au départ à l'élimination des vrais nationalistes, mais aussi au renforcement final de ces régimes, comme nous l'avons vu justement dans les pays que je viens de citer. Et donc il y avait une sorte de jeu de dupes, si vous voulez. Et l'Iran est sorti de ce jeu de dupes, justement par cette révolution. Et je pense que cette révolution, elle est spirituelle, elle est en même temps technique et spirituelle. Je crois que la grande surprise a été, sur le plan militaire, je recite encore Maître Chami, à l'occasion de cette campagne odieuse dirigée contre le Yémen. Et je dois dire que ceci a beaucoup surpris. Surpris, je dirais, non pas simplement des grands États comme les États-Unis ou la Russie, non, mais a surpris ce que ceux au X ceux que je nommerai les manipulateurs internationaux, c'est-à-dire ceux qui veulent jouer de la puissance des États, en les dressant les uns contre les autres, jusqu'à un certain degré, mais afin eux-mêmes de ramasser la donne, si je puis dire, de ramasser les bénéfices de cet état de relative anarchie, voyez-vous, qui domine le monde. Je crois que l'Iran est aujourd'hui, a non seulement des alliés, bien sûr, on cite la Russie, on cite la Chine, je reconnais, mais ces alliés, y compris même à l'intérieur des États-Unis, il y a certainement des forces qui ont intérêt à ce que l'Iran existe, subsiste, parce que nous ne pouvons pas maintenir le monde comme une sorte de jeu de quilles, si je puis dire, où, disons, chacun craint de voir tomber l'autre. Non, il faut qu'il y ait une stabilité. Cette stabilité, malheureusement, les États, qu'on dit autrefois du tiers-monde, n'ont pas pu l'obtenir. On parle très souvent, dans ma jeunesse, de troisième voie, c'est-à-dire qu'il n'était ni celle du communisme, ni celle du capitalisme. En réalité, cette troisième voie est tout à fait utopique, car on se battait sur des mots, mais on ne voyait pas le fond des choses. Le fond des choses est une tyrannie d'exploitation, et souvent même, on l'a vu dans la Seconde Guerre mondiale, c'est que des États qui semblaient être éloignés les uns des autres se sont coalisés, voyez-vous, pour leurs intérêts personnels. Je dois dire que l'Iran a souffert de cet état de choses, je parle de ces années du XXe siècle, et c'est quand même un résultat, je dirais, non pas miraculeux, mais merveilleux quand même, de penser que c'est à l'occasion d'une réflexion spirituelle, celle de l'imam Khomeini, par exemple, qui disait « ni Est ni Ouest ». Vous savez, c'est une réflexion, il y avait une réflexion chinoise à l'époque qui disait, c'était chinois surtout, le vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest, mais en réalité, disons, on savait très bien que les mains se tendaient d'un côté comme de l'autre. Car en effet, cela se produit, je veux être clair là-dessus, lorsque la société est matérialiste. Le matériel attire le matériel.
Merci, je reste avec. Maître Chami, on a beaucoup parlé, entendu parler en effet de cette campagne américaine de pression maximale, de cette stratégie américaine. Et bien sûr, alors, du côté de la République islamique d'Iran, c'était l'économie de résistance dont les grandes lignes ont été décrétées par le leader de la révolution islamique en 2013. Comment, alors, cette économie de résistance a aidé le pays à surmonter les sanctions et les pressions américaines, notamment dans le secteur pétrolier, Maître Chami?
Vous savez, l'Iran, depuis la naissance de la révolution, a reçu des coups. On a assisté guerre par les Américains, et du coup, pas arrêté. Dire une chose, c'est qu'à chaque fois, la République islamique d'Iran a rendu les coups par des coups. La République islamique d'Iran n'a pas accepté, bien entendu, que sa volonté, la volonté de son peuple, la volonté de cette nation soit écrasée par les coups qu'il recevait. Et à ce moment-là, évidemment, la République islamique d'Iran prenait le risque, parfois, de rendre ses coups et, évidemment, parfois, au risque de déclencher des crises graves. Et ce qui s'est passé, notamment après l'assassinat du général Soleimani et l'attaque de la base d'Ain al-Assad, c'était l'exemple, j'ai envie de dire, le plus spectaculaire. Mais il n'était pas le seul, parce que l'histoire de la République islamique d'Iran est truffée d'exemples de ce même genre. Et évidemment, ça n'a pas plu. Et c'est la raison pour laquelle ils ont essayé ce qu'on appelle la guerre plus douce, c'est-à-dire la guerre économique, afin que le pays s'effondre de l'intérieur. Et l'idée finale était de faire monter, si j'ose dire, la population contre la République islamique d'Iran. Parce que des voix commençaient à dire « Ah bah oui, si on abandonnait les idées de la révolution et si on abandonnait… » si on abandonnait nos projets, à ce moment-là, les Américains seraient contents de nous. La pression. Et à ce moment-là, on vivrait mieux et on deviendrait plus riche, etc. Sauf que c'était un marché de dupes. Les républicains d'Iran n'est pas tombé dans ce piège et les Iraniens surtout ne sont pas tombés dans ce piège-là. Et évidemment, ils ont développé plutôt leurs moyens intérieurs afin qu'il y ait une sorte d'autosuffisance par la production intérieure dans tous les domaines. Et pour financer tout cela, il était nécessaire que la République islamique d'Iran sorte en quelque sorte du marché monétaire, ou en tout cas du circuit monétaire classique, et arrive à ramener de la liquidité afin de financer son économie. Et il y a eu cette réussite-là. certainement pas sans difficulté, mais ces difficultés ont été surmontées. Et moi, je suis de temps à autre informé de ce qui se fait. Je dois vous dire que je suis plus qu'admiratif par rapport aux moyens déployés afin de pouvoir sortir de cette impasse dans laquelle les Américains et les Occidentaux tentent de mettre les Iraniens et la République d'Iran. Et d'ailleurs, les moyens ont été accentués après 2015, après l'accord qui était censé être l'accord de sortie de crise, l'accord de sortie de cette impasse, et les Iraniens ont tenu bon, et la République islamique d'Iran a pu, bien entendu, surmonter des années de pression et des années de pression économique. Et aujourd'hui, évidemment, on le voit, et ça paye, et c'est ce qui explique que les Américains courent après les Iraniens pour obtenir un accord, en tout cas, pour revenir dans l'accord, et ils essayent d'obtenir des contreparties de toutes sortes, et ils n'y arriveront pas parce qu'il y a la volonté populaire qui est derrière la République islamique d'Iran.
Monsieur le professeur, trois minutes. Maître Chami, il a rappelé à cette guerre économique, à des pressions, à des de résistances minimisées, sinon à neutraliser complètement la France américaine.
Uniquement la confiance en soi, c'est une force, c'est la première base du courage. Et je crois que bien sûr, la spiritualité et l'éducation de cette génération consécutive à la guerre en Iran-Irak aussi, a beaucoup joué. Malheureusement, bien sûr, cette guerre qui avait été imposée à l'Iran, a traversé ses malheurs, disons, a eu le bénéfice, si je puis me permettre de dire ça, le bénéfice justement de former une génération courageuse, génération qui sait d'ailleurs que la bataille de ses pères continue d'une autre façon, mais elle repose sur, je dirais, par confiance intérieure, par le culte, la culture de l'intériorité, c'est-à-dire la culture de la technologie. Monsieur Maître Chami a tout à l'heure parlé du rôle de l'Iran, de la place de l'Iran dans les nanotechnologies. Et je crois que cet aspect qui est très, très important, je dirais non pas parce que Maître Chami habite l'Alsace, mais nous avons eu près de l'Alsace, dans le pays de Bade, un philosophe allemand, Heidegger, qui a parlé de l'intérêt très important de la technologie, de la technique. La technique n'est pas du tout un mode de faire, c'est une concrétisation de l'esprit. Et je crois que les grands États, ceux qui subsisteront à travers le chaos actuel, seront ceux qui auront justement pu développer cela. Je donne comme exemple, qui n'a rien à voir avec le Japon, mais qui est un nazi, l'exemple que je connais du Japon, me semble tout à fait caractéristique à cet égard. Et là-dedans, que ce soit pour l'Iran, pour le Japon, l'autre pays certainement, vous avez la spiritualité qui a joué un rôle. C'est la spiritualité ici considérée un peu comme quelque chose de vague, comme une sorte de parti pris. Non, il s'agit là de quelque chose qui est dans le corps national. C'est pour ça qu'on a raison de parler toujours de cette République islamique d'Iran. Et je crois que c'est cette base spirituelle, voyez-vous, qui est très profonde, bien sûr, dans l'histoire ancienne iranienne. Que se trouve le terreau, si je puis dire, de ces réussites. Parce que l'Iran est respecté, non pas seulement par ses résultats, mais par la volonté qu'on sent en lui. Et je crois que c'est ce que les Américains comprennent aujourd'hui, ce que les Russes, ce que les Russes savent. Et vous savez, quant à la Chine, eh bien la Chine a toujours été, disons, très proche des intérêts matériels, et elle sait reconnaître, bien sûr, la valeur de ce qui pourrait être un concurrent, merci. Mais en réalité, pour elle, n'est pas un concurrent.
Monsieur le professeur Pierre Dortiguet, philosophe et politologue, Maître André Chami, juriste international et sociologue, merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Maître Chami, merci bien.
Au revoir.
Dans l'Alsace, vous connaissez un peu.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.
Jalal Ali Ahmad, un écrivain engagé.
Au printemps de l'année 1945, la revue Sohan annonça, en publiant la nouvelle Le Pèlerinage, la naissance d'un nouvel écrivain. Un écrivain qui commença sa carrière sous l'influence de Sadr et Dayat, mais qui tenta très tôt de trouver son indépendance artistique, écrivit quelques-unes des histoires les plus significatives de la tradition iranienne. Jalal Ali Ahmad fut cet écrivain engagé, intellectuel, conscient, à la plume, toujours au service du peuple. Il eut une vie assez courte, riche et tourmentée. Jalal Ali Ahmad naît en 1923 à Téhéran. Son père, Hajj Sayyid Ahmad, est un grand religieux de l'époque. Ainsi, il grandit dans un milieu religieux dont on pourra percevoir le reflet de son propre aveu dans certaines de ses œuvres. Son père refuse de le laisser poursuivre ses études après le primaire, mais tout en travaillant, Jalal participe aux cours du soir de l'école Darul Funun, l'école polytechnique, et obtient son baccalauréat en 1943. Cette même année, il fonde avec quelques amis l'association réformiste. Un an plus tard, la plupart des membres de ce groupe, dont Jalal, décident d'adhérer au parti communiste iranien Toudeh. Dans son adhésion, Ali Ahmad écrit plusieurs articles publiés dans différentes publications du parti, ainsi que dans la revue mensuelle Les Gens, dont il est nommé directeur. En 1945, sa première nouvelle est publiée dans la revue Sohan, ce qui lui vaudra l'amitié de Sadr Hidayat, le maître de la nouvelle personne. À la fin de la même année, il publie son premier livre, Échange de visites, Dido Bazdid, recueil de ses nouvelles déjà publiées dans les revues Sohan et Les Gens. Il termine en 1946 ses études supérieures en littérature persane et fait connaissance avec Nima Yushij, père de la poésie moderne, qui deviendra l'un de ses amis intimes. Il est engagé en 1947 comme professeur dans divers lycées de Téhéran. Il publie son deuxième recueil de nouvelles, De la peine que nous avons, Azranji Kemibarim, écrit dans le style du réalisme socialiste qui revient sur les échecs du parti Toudeh. Ce livre sera plus tard considéré par l'auteur comme l'un des plus mauvais qu'il ait écrit et il interdira sa réédition. C'est cette même année qu'à la suite d'un différend avec les chefs du parti, certains membres, dont Ali Ahmad, avec à leur tête Khalil Maleki, quittent le Toudeh et fondent le parti socialiste Toudeh de l'Iran, parti qui ne connaît d'ailleurs pas une longue existence. Après cet échec, Jalal quitta la scène politique pour se consacrer avec plus de sérieux à l'écriture. Il publie Setar et traduit les œuvres de Dostoïevski, de Camus, de Sartre et de Gide. En 1950, il épouse Simin Daneshvar, grande écrivaine iranienne, qui sera dès lors son premier lecteur et critique. L'apparition du parti du Front National et la nationalisation du pétrole poussent Jalal Ali Ahmad de nouveau vers la politique. En 1953, il traduit « Retour du SS de Gide » et « Les mains sales de Sartre », des livres qui reflètent bien sa pensée de l'époque. En 1962, Jalal accepte la direction de la rubrique intitulée « Livre du mois » de Kayhan, dont seulement deux éditions paraissent, après quoi il est arrêté pour la publication du premier chapitre de « L'Occidentalisation », son œuvre la plus célèbre, qu'il considéra lui-même comme un point culminant dans sa carrière d'écrivain. Jalal commence à voyager et visite quelques pays, et en 1962, il est envoyé en mission en Europe pour étudier la publication des livres scolaires. Au printemps 1964, il effectue un pèlerinage à la Mecque. L'été de cette même année, acceptant l'invitation du 7e Congrès international d'anthropologie, il se rend en Union soviétique. En 1965, à l'invitation du séminaire littéraire politique international de l'Université de Harvard, il part aux États-Unis. Les comptes rendus de chacun de ses voyages, dont le plus célèbre est celui de son pèlerinage, sont publiés sous forme de récits. En 1967, il publie ses dernières œuvres importantes, « La malédiction de la terre », où il remet en question la réforme agraire, et la traduction du traité du Rabal, ou le recours aux forêts d'Ernst Jünger, qui est un essai sur le nihilisme. Il voyage la même année en Azerbaïdjan, où il rencontre Samad Behrangi. En voyage à Mashhad, il fait connaissance avec Ali Shariati, le plus important intellectuel des années 70. Un lien de courte durée s'établit puisque les menaces de la Savak l'obligent à s'exiler dans la région du Gilan, à Asalem, au nord de l'Iran. Son vieil ami Khalil Maleki meurt au début de l'été 1969. Cette mort influence beaucoup Ali Ahmad, qui s'éteint 2 mois plus tard à Asalem. Le style d'Ali Ahmad. C'est surtout à sa prose qu'Ali Ahmad doit sa popularité. Les critiques considèrent son style comme l'aspect le plus important de sa créativité. Il a toujours été en guerre pour ses croyances, son écriture vive, brève, ironique, incisive, familière, humaniste, méticuleuse, forte, précise, unilatérale et journalistique, a tellement influencé la prose nouvelle qu'on a souvent essayé en vain de l'imiter. Et je crois que ce sont le romantisme européen et la plume d'Ali Ahmad qui caractérisent notre prose littéraire d'aujourd'hui. Disait Ali Shariati. Ainsi, la prose d'Ali Ahmad ressemble à son caractère changeant, vif, perspicace et pénétrant. Bien qu'elle mêle les excès au manque et des associations d'idées à des inspirations diverses, elle est influente, unique et constructive. Il emprunte le principe de sa parole au Coran, au dialogue quotidien, à la littérature classique en prose de Saadi, Nasser Khosrow, etc. Du point de vue de la technique et de la façon de créer les personnages de ses histoires, Jalal prend comme exemple des écrivains occidentaux, car la création d'histoires en Iran a un passé très court et sans profondeur. Il veut être au courant de tous les événements littéraires du monde. Par conséquent, il lit et traduit beaucoup. Cette influence étrangère se ressent d'ailleurs dans ses œuvres. Il a lui-même affirmé qu'il s'était inspiré de Ferdinand Céline pour créer le personnage du directeur d'école. Et les autres sentent dans son travail l'influence de Camus, Miller et Hemingway. Sans nul doute, Hemingway, de par son style d'écriture par phrases courtes et serrées, a influencé un grand nombre d'écrivains du monde entier, dit Ali Shariati. Ali Ahmad s'exprime à travers des phrases courtes et des expressions fragmentées et parfois entrecoupées mais claires, serrées et proches du langage parlé. Il supprime souvent les verbes et ignore les éléments grammaticaux. Selon Ali Ahmad, la soumission totale aux règles grammaticales empêche la langue de progresser et de s'améliorer et limite la pensée. C'est pourquoi il y a parfois dans ses écrits des manques et des erreurs concernant l'emploi des verbes, des syntaxes, des expressions, des compositions et des comparaisons, et cela surtout dans ses nouvelles. Cependant, Ali Ahmad a un style vif, original et dynamique. La génération à laquelle appartient Ali Ahmad était soumise à l'ouragan du modernisme occidental ainsi qu'à une aliénation culturelle et historique. Elle a ainsi failli perdre toute son identité historique et nationale. Jalal n'était ni un politicien professionnel à la recherche du pouvoir, ni un écrivain charmant et sans responsabilité. Il considérait sa plume comme son arme et disait « Ces jours-ci, la plume est devenue une arme pour nous. Que cette main soit coupée si je ne sais pas de quelle façon utiliser cette arme. » La prochaine fois, nous vous parlerons encore plus de cet écrivain engagé, Jalal Ali Ahmad.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.